Haute Claire était vêtue, si cela s'appelle vêtue, comme je l'avais vu tant de fois donnant ses leçons à V. Lacée dans ce gilet d'armes de peau de chamois qui lui faisait comme une cuirasse, et les jambes moulées par ses chausses en soie qui en prenaient si juste le contour musclé. Savigny portait à peu près le même costume. Svelte et robuste tous deux, ils apparaissaient sur le fond lumineux qui les encadrait comme deux belles statues de la jeunesse et de la force. Ils parlaient, appuyés à la rampe, mais trop bas pour que j'entendisse leurs paroles. Mais les attitudes de leur corps les disaient pour eux. Il y eut un moment où Savigny laissa tomber passionnément son bras autour de cette taille d'Amazone qui semblait faite pour toutes les résistances et qui n'en fit pas. Et la fière Haute-Claire se suspendant presque en même temps au cou de Serlon, ils restèrent ainsi sculptés, bouche à bouche, le temps, ma foi, de boire sans s'interrompre et sans se reprendre au moins une bouteille de baisers. En voyant ces caresses et cette intimité qui me révélait tout, j'en tirais, en médecin, les conséquences. Mais leur ardeur devait tromper mes prévisions. Le lendemain matin, j'allais à Savigny. Je trouvais Haute-Claire redevenue Eulalie, assise dans l'embrasure d'une des fenêtres du long corridor qui aboutissait à la chambre de sa maîtresse, une masse de linge et de chiffon sur une chaise devant elle, occupée à coudre et à tailler là-dedans, elle, la tireuse d'épée de la nuit. Je passais, mais sans lui parler, car je ne lui parlais que le moins possible, ne voulant pas avoir avec elle l'air de savoir ce que je savais et ce qui aurait peut-être filtré à travers ma voix ou mon regard. Je me sentais bien moins comédien qu'elle, et je me craignais. Savigny, qui n'était pas là quand j'étais arrivé, entra tout à coup. Oh, il était bien plus fatigué qu'elle. Il me parla de l'état de la comtesse, qui ne guérissait pas. Il m'en parla comme un homme impatienté qu'elle ne guérit pas. Il avait le ton amer, violent, contracté, de l'homme impatienté. Il allait et venait en parlant. Je le regardais froidement, trouvant la chose trop forte pour le coup, et ce ton napoléonien avec moi un peu inconvenant. Mais c'était vrai pourtant que la traînerie de ce mal le lassait, lui portait sur les nerfs. Avait-il pensé que ce serait moins long? Et depuis, lorsque j'y ai songé, si l'idée d'en finir vint à lui ou à elle, ou à tous les deux, puisque la maladie ou le médecin n'en finissait pas, c'est peut-être de ce moment-là. Quoi, docteur? Ils auraient donc... Je n'achevais pas, tant cela me coupait la parole, l'idée qu'il me donnait. Il baissa la tête en me regardant, aussi tragique que la statue du commandeur, quand elle accepte de souper. Oui, souffla-t-il lentement d'une voix basse, répondant à ma pensée. Au moins à quelques jours de là, tout le pays a appris avec terreur que la comtesse était morte empoisonnée.
Empoisonnée, m'écriai-je ?
Par sa femme de chambre, Eulalie, qui avait pris une fiole l'une pour l'autre, et qui, disait-on, avait fait avaler à sa maîtresse une bouteille d'encre double au lieu d'une médecine que j'avais prescrite. Mais c'était possible, après tout, qu'une pareille méprise. Mais je savais, moi, que Eulalie, c'était Haute-Claire. Mais je les avais vus tous les deux. Le monde n'avait pas vu ce que j'avais vu. Le monde n'eut d'abord que l'impression d'un accident terrible. Mais quand, 2 ans après cette catastrophe, on apprit que le comte Serlon de Savigny épousait publiquement la fille Astassin, car il fallut bien déclarer qui elle était, la fausse Eulalie, et qu'il allait la coucher dans les draps, chose encore de sa première femme, mademoiselle Delphine de Cantor, ah alors là, ce fut un grondement de tonnerre, de soupçons à voix basse, comme si on avait eu peur de ce qu'on disait et de ce qu'on pensait. Seulement, au fond, personne ne savait. On ne savait que la monstrueuse mésalliance qui fit montrer du doigt le comte de Savigny et l'isola comme un pestiféré.